Grand Dialogue
Sigika Foba
Edowani wa Makaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiru.
Halud Mouni.
Chenibiri. Sigika Foba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Grand Dialogue du Studio Tamani. Nous sommes mercredi 4 février 2014, 2015 plutôt, plus que deux jours pour entrer en plein dans la célébration de la Journée mondiale de lutte contre l'excision, ce qui explique le choix du thème d'aujourd'hui, l'excision, le point au Mali. Ce phénomène touche 130 millions environ de femmes dans le monde. Au Mali, 85% des femmes sont touchées. Où est-ce que nous en sommes avec la lutte contre l'excision au Mali? Quelles peuvent être les conséquences sur la santé de la petite fille et comment lutter contre cette pratique? Nous poserons tout à l'heure la question à nos invités. Ces invités sont donc Dr Modibo Soumaré, gynécologue obstétricien qui interviendra par téléphone, Youssouf Bagayoko, il est chef division plaidoyer et mobilisation sociale au programme national de lutte contre l'excision, Madame Diallo Assitan Diakité du CENIEX, elle est chef division production des messages au CENIEX. Moi je suis Sira Bachili pour l'animation, Salim Djouara assure la technique.
Studio Tamani.
Alors, bienvenue à vous, chers invités. Nous avons au bout du fil Dr Soumaré, qui est gynécologue. Et ma première question va s'adresser à lui. C'est vrai qu'on entend plusieurs termes sur l'excision, notamment ablation, infibulation, mutilation. Docteur, nous, nous sommes des profanes en la matière. Dites-nous, c'est quoi tous ces termes?
Allô, bonsoir. Allô?
Oui, bonsoir, docteur.
Donc, c'est un plaisir pour moi d'être en ligne. Donc, en direct de cette émission, je me nomme Modibo Tanguina Soumaré, médecin gynécologue, chef de service de gynécologie obstétrique, mm-hmm. du centre de défense de la commune 1 du district de Bamako.
Mm-hmm.
Donc, merci beaucoup. Cette émission m'intéresse à plus d'un titre. Étant spécialiste en la matière, je pense qu'on va beaucoup échanger par rapport à certains thèmes. D'abord, la définition. Donc, on parle d'excision ou encore de mutilation génitale féminine. Vous me suivez?
Oui, je vous suis très bien.
Toute intervention aboutissant à l'ablation partielle ou totale. Ça veut dire qu'on va enlever une, soit en totalité ou en partie, mm-hmm. des organes génitaux externes de la femme, ou alors une autre mutilation portant les deux organes féminins comme le sein, pour des raisons culturelles, des raisons culturelles ou autres,
mm-hmm.
mais non pour des raisons médicales ou non. Thérapeutique. Ça, c'est très, très important. Donc, l'excision est pratiquée pour des raisons socio-culturelles,
mm-hmm.
socio-religieuses, mais pas pour des raisons médicales. Donc là, c'est très, très important. Et il s'agit d'enlever mm-hmm. même le bout d'un organe.
D'accord.
Il s'agit du prépuce, du clitoris, des petites lèvres ou des grandes lèvres et autres, j'en passe.
D'accord. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre ablation, infibulation et mutilation qu'on utilise très souvent aussi?
Bon, maintenant, effectivement, il y a une question de terminologie.
Mm-hmm.
Il y a une question de terminologie. L'excision rentre maintenant dans un grand groupe de mutilations génitales féminines. Donc, pratiquement, c'est la même chose. Mais c'est les différentes variétés ou types qui font la différence.
D'accord.
Je ne sais pas si vous voulez que je vienne sur le type d'excision.
Mm-hmm. On va y revenir, le temps de faire réagir les autres.
D'accord.
Voilà. Donc, alors, M. Bagayogo, vous êtes du programme national de lutte contre l'excision. Nous l'avons dit, hein, ce débat, nous l'avons organisé en prélude à la journée mondiale de lutte contre l'excision qui doit être célébrée le 6 février prochain. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà comment est-ce que vous vous organisez pour cette journée?
Ok, merci bien, Sera Bachili. Je me réjouis de l'organisation d'un tel débat qui contribue à informer et à mieux informer la population sur le phénomène de l'excision, parce que c'est une priorité, une préoccupation aussi. Et je voudrais remercier de passage le docteur qui vient de téléphoner, qui a parlé de la définition et de quelques déterminants sociaux et qui font que les gens pratiquent l'excision. Et en fait, le problème de l'excision, il est complexe. Il est complexe parce que nous avons hérité de notre culture. Et si je dis nous, c'est de façon générale. Sinon, il y a des sociétés au Mali qui n'ont pas comme culture traditionnelle l'excision, qui n'ont jamais connu l'excision. Et par rapport à ce phénomène, je pense que vous avez même organisé beaucoup de débats là-dessus, mais il faut continuer à faire ce débat. Et c'est pourquoi il y a une journée qui a été instaurée depuis 2003. En tout cas, par le comité interafricain de lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes. Et en 2004, le Mali a commencé à célébrer cette journée. Et aujourd'hui, nous sommes au 12e anniversaire cette année. Mm-hmm. Alors, la journée de cette année va être célébrée le vendredi 6 février au Centre international des conférences. Et le thème de cette année est un peu spécifique parce que ça concerne la jeunesse. Mobilisation et implication de la jeunesse pour accélérer la tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. Ça, c'est très important. Et ça ne tombe pas du néant. Parce que nous savons que la jeunesse, elle a besoin d'information, elle a besoin de protection, elle a besoin d'encadrement. Et la jeunesse a hérité des informations, des nouvelles. Il faut qu'on lui présente la vraie, en tout cas, réalité de ce qui se passe par rapport à ce phénomène. Parce que longtemps, ça a été caché et maintenant, les témoignages, les complications sont là et il faut qu'on en parle.
D'accord.
Voilà.
Alors, Madame Diallo, Assitan Diakité, vous êtes du CENIEX. Si on vous parlait de faire une situation d'ensemble de la pratique de l'excision, qu'est-ce que vous répondez à cela?
Merci bien, Sida. Une situation d'ensemble par rapport à la pratique de l'excision. Et dans mon rôle de communicateur étant au CENIEX, ce serait une vue d'ensemble que je pourrais donner. Mais en termes de statistiques, c'est M. Bagayogo qui est mieux placé pour fournir ces renseignements-là. En termes de vue d'ensemble, nous avons constaté que le changement de comportement tarde à venir. C'est vrai, on a fait un pas parce qu'il y a certains groupes socio-culturels ou certaines catégories socio-professionnelles ou même certaines personnalités qui n'adhéraient pas à cette idée d'abandon de l'excision. Mais au fil du temps, nous avons constaté avec satisfaction que c'est des gens qui ont commencé à adhérer à cette idée, qui commencent à même s'investir auprès des spécialistes de la question dans la lutte contre l'excision. Le changement souhaité n'est pas encore atteint, mais on est en train de faire de très grands pas.
Alors, M. Bagayogo, quelle est cette situation alors?
En fait, il faut partir des statistiques. Si nous remontons un peu, notre référence est très généralement l'enquête démographique et de santé Mali. Alors si nous partons de l'enquête démographique et de santé Mali, en tout cas, deux. Mm-hmm. Et nous partons de la statistique de 94%. Mm-hmm. Alors l'enquête démographique 3 donne à peu près 92%. Ça c'est en 2001. Et l'enquête démographique 4 donne en tout cas 85%, ça c'est en 2006. Alors de 2006 maintenant à la dernière enquête qui est de 2012-2013, alors vous savez que pendant ce temps, le Mali était en crise. Alors il fallait sortir des statistiques, parce qu'il n'y a pas que l'excision qui soit concernée. Alors il y a eu des enquêtes, mais les trois régions du Nord n'ont pas été concernées par l'enquête démographique et de santé. Et sur les 8 cercles de Mopti, il y a 3 cercles qui n'ont pas été aussi enquêtés. Notamment Douanza, Ténéngou et Yuwaro. Donc les statistiques qui sont sorties de là alors montrent que 91% des femmes âgées de 15 à 49 ans ne sont pas excisées. Sont excisées. Et si nous prenons la tranche d'âge 0-14 ans, parce que c'est une première que l'EDS donne cette statistique-là, alors nous avons 69% alors des enfants, des filles âgées de 0 à 14 ans. Mm-hmm. Alors ça voudra dire quoi? Que 31% de ces tranches d'âge-là alors ne sont pas excisées.
D'accord.
Là, ce n'est pas un chiffre à négliger, surtout s'il faut multiplier en termes de filles, en tout cas épargnées par cette pratique.
Finalement, c'est 91%?
91%, c'est ce qui est officiel. Mm-hmm. Mais si les statisticiens se donnent à faire le jeu, en maintenant les résultats de l'EDS dans les trois régions, et qu'en ajoutant aux statistiques, de la dernière statistique, alors il y a une baisse qui va constater. La preuve est que, à Bamako par exemple, l'enquête démographique 4 donne 92%, et l'enquête démographique 5 donne 90%.
Un chiffre important.
Alors de Bamako, Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, si vous prenez région par région, la prévalence baisse dans toutes ces régions.
D'accord.
Sauf à Mopti, où je l'ai dit, il y a 3 sœurs qui n'ont pas été concernées.
D'accord. Alors, nous avons au bout du fil Mme Aminata Traoré du CADEF. Le CADEF, je l'avais dit au démarrage de cette émission, c'est le Comité d'action pour les droits de la femme et de l'enfant. Madame, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes du Comité d'action, comme je l'ai dit, pour les droits de la femme et de l'enfant.
Exactement.
Est-ce que vous pouvez nous parler de la situation de la pratique de l'excision au Mali de nos jours?
Bon, la situation, je sais qu'il y a eu une amélioration, parce que dans beaucoup de régions, on a constaté quand même qu'il y a certains groupes sociaux qui ont arrêté complètement la pratique, mais ça se fait d'une autre manière, parce que la discrétion est de mise maintenant. Avant, au niveau des centres de santé, ça se faisait. Depuis qu'on a fait la campagne, il y a des gens qui ont abandonné l'excision. Mais aujourd'hui, de plus en plus, d'autres le font dans la plus grande, je vous ai dit, dans la plus grande discrétion. Et l'âge des enfants pour l'excision a évolué aussi. Mm-hmm. Parce que c'était les bébés avant, les toutes petites. Maintenant, les femmes arrivent à cacher au mari et à aller faire exciser leurs enfants. Alors que c'est pour le bien des femmes qu'on veut bannir cette pratique-là.
Alors, Madame Traoré, il y a certaines ethnies qui ne pratiquent pas l'excision au Mali. Hein. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ces ethnies? Vous avez une idée?
Nous, chez nous, on ne le fait pas.
Chez vous, chez qui? Les Sénoufo?
Chez les Sénoufo. Mm-hmm. Dans mon village, il n'y a pas de pratique de l'excision.
Mais pourquoi? Il y a une explication? Ça veut dire que les gens sont conscients des conséquences déjà?
Non, ça n'a jamais existé. Nous, on a grandi.
C'est culturel.
C'est culturel.
D'accord. D'accord. Je vais revenir à Dr Soumaré. Dr Soumaré, vous nous parliez des types d'excision, infibulation, mutilation, ablation. Vous pouvez nous édifier sur ça?
Ok. Merci, Madame Dico. Excusez-moi, je voudrais dire bonsoir aux invités qui sont soit dans le studio ou alors qui sont en ligne. Donc, c'est pour vous dire que j'attache beaucoup d'intérêt à cette émission. Bonsoir, M. Bakayoko. Yannick là. Il y a une dame également.
Madame Diallo. Madame Diallo, oui.
Voilà. Donc, avant de passer à la classification, je vous rappelle que l'excision constitue aujourd'hui un problème majeur de santé publique.
Mm-hmm.
C'est un problème grave, crucial à l'échelle mondiale, à l'échelle nationale. Donc, il faudra une coordination de toutes les actions des partenaires techniques et financiers du ministère de la Santé et du Développement Social pour venir à bout. Bref, ça, c'était une petite parenthèse.
Mm-hmm.
Les différents types d'excision, on a 4 types. Le type 1, on appelle. Le type 1, c'est l'excision du prépuce avec ou sans excision partiel ou total du clitoris. Donc, on coupe pas le bout du clitoris ou alors le bout du prépuce, ou alors on coupe partiellement ou totalement le clitoris. Ça, c'est le type 1. Le type 1 maintenant, l'ablation du prépuce, du clitoris, avec excision partielle ou totale des petites lèvres. Est-ce que vous me suivez? Le type 1,
oui, je vous suis très bien.
Le prépuce, soit on a le clitoris en entier ou en partiellement ou en totalité. Le type 2, c'est le prépuce, le clitoris et une partie des petites lèvres. Le type 3, maintenant, l'excision, l'ablation partielle et totale des gingivées externes, plus la suture. On appelle infibulation. Donc là, c'est la mesure de technique qui se résume même à des sutures. Donc là, c'est les grandes lèvres qui sont concernées. Et le type 4 de l'OMS, maintenant, c'est le type non classé. Il s'agit de cotérisation, de bruit, d'interdiction des produits caustiques dans le vagin afin d'amener à un rétrécissement du vagin et empêchant tout rapport sexuel. Donc il y a 3 types majeurs et le quatrième type, c'est le type non classé.
D'accord.
Donc il y a les piercings, on peut percer la langue, on peut percer les oreilles, on peut percer même les lombrines. Donc ça rentre dans le cadre d'un type 4.
Merci docteur pour toutes ces précisions. Nous allons observer quelques secondes de pause et nous revenons après.
Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Oui, les réseaux sociaux, vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook et le compte Twitter de Studio Tamani. L'émission que vous suivez présentement via nos 24 radios partenaires, c'est le Grand Dialogue, une émission consacrée aujourd'hui à l'excision, ses conséquences et la façon de lutter contre la pratique. Nos invités sont Youssouf Bagayogo, chef plaidoyer mobilisation sociale au Programme national de lutte contre l'excision, Dr Modibo Soumaré, gynécologue obstétricien, Mme Diallo Assitan Diakité du CNIEX et Madame Aminata Traoré du CADEF, Comité d'action pour les droits de la femme et de l'enfant. Et je reste avec Dr Soumaré puisque nous parlons des conséquences dans ce deuxième volet de l'émission. Dr Soumaré, l'excision est un facteur de risque sanitaire, a-t-on l'habitude d'entendre? Et quelles peuvent être les conséquences de l'excision sur la santé de la femme?
Ok, merci. L'excision a des conséquences immédiates, tardives et lointaines. Les conséquences immédiates, c'est d'abord c'est l'hémorragie. La difficulté se met à saigner abondamment. Donc, cette hémorragie peut souvent ne pas être jugulée et finalement, ça peut aboutir au décès. Donc, il y a l'hémorragie, il y a la douleur atroce parce que l'excision est faite à chaud, sans anesthésie, sans conditionnement, sans soutien psychosocial. Donc, excusez-moi, c'est comme si on abattait la petite fille. Donc, la douleur est atroce, elle est effroyable. Après la douleur, l'infection, donc avec la panne du VIH aussi, donc les traitements utilisés ne sont pas stériles. Il y a un risque de tétanose, il y a un risque d'hépatite, mais il y a un risque de VIH. En conséquence, il me reste également, on peut avoir la rétention aiguë d'urine. La petite fille qui a été excisée, donc avec l'accolement des organes juteux externes, elle ne parvient plus à faire les urines. Donc, c'est un problème. Également, le risque infectieux, je l'ai dit, il y a également le choc. Le choc parce que les organes
psychologiques.
Donc, les organes juteux externes sont innervés par les nerfs qui vont directement au cœur. Mm-hmm. Donc, cette douleur accroche au choc, à la douleur, l'enfant petit fait un arrêt cardiaque. Donc, ça, c'est le conséquence immédiate, tout de suite qu'on peut vivre sur le site d'excision.
D'accord.
Donc, maintenant, les conséquences médicales tardives, c'est les difficultés d'accouchement. Là, on va en parler de longtemps large,
oui.
C'est les dystocies.
Voilà.
Donc, et la complication majeure, c'est les fistules visco-vaginales et rectovaginales. Vous allez voir la petite fille qui est abandonnée, la petite fille qui est délaissée par sa famille, par sa communauté, même par ses parents. Parce qu'elle perd les urines, elle perd les selles, et elle sent mauvais.
Oui.
Elle est rejetée.
D'accord, merci docteur. On va faire réagir les autres. Des hémorragies, vous l'avez entendu, monsieur Bagayoko. Moi, je ne vous apprends rien. Il y a des problèmes d'incontinence que le docteur Soumaré a évoqué tout à l'heure.
Oui.
Est-ce qu'il vous est arrivé de voir des cas comme ça, vous qui êtes du Programme national de lutte contre l'excision?
Oui, tout à fait. Encore tous mes grands remerciements à docteur qui, avec ses collègues, travaille inlassablement pour. Et informer d'abord, ensuite prendre en charge les cas de complications qui arrivent à leurs différentes structures. Donc nous voudrions en tout cas remercier sincèrement les agents de santé. Et ce que vous dites, c'est très pertinent et nous rencontrons et quotidiennement des cas de complications identifiés soit par les associations, soit par les ONG, soit par des particuliers qui nous saisissent pour nous parler des cas qui sont à leur niveau. Et dès que nous sommes informés, nous essayons de prendre contact avec non seulement la victime, ses parents et d'autres personnes proches à elle et pour pouvoir organiser sa prise en charge. Et je voudrais rappeler que l'année passée, il y a 2 ans comme ça, il y a la CDAO qui a financé une prise en charge des fistules. Et il y a 24 fistuleuses qui ont été identifiées, qui ont été prises en charge et par les professionnels en la matière. Et après leur formation, elles ont bénéficié d'une formation. Mm-hmm. Formation sur la fabrication du savon, qu'on appelle la saponification. Et après cette formation, il y a un appui financier qui a été fait à leur endroit pour qu'arrivées au niveau du village, qu'elles puissent s'insérer. Parce que vous comprendrez qu'avant de venir jusqu'à Bamako, ces femmes-là vont commencer à se traiter. Et le peu d'argent qu'elles disposent, elles vont tout mettre dans le traitement. Et elles reviennent, en tout cas, à nous démunis. Mmh. Donc, il fallait les soutenir dans ce sens aussi. Et il y a bien d'autres organisations qui œuvrent aussi dans ce domaine et qui font la prise en charge, non seulement à Bamako, mais ailleurs, Kay, Ségou, dans presque partout, parce que nous avons formé un pool de formateurs à Bamako. Formateurs sur la prise en charge médicale, sur la prise en charge psychosociale et sur la prise en charge juridique. D'accord. Alors cette formation a été dupliquée au niveau des régions et nous comptons continuer pour pouvoir en tout cas atteindre toute une masse critique d'agents de santé et qui pourraient peut-être faire la prise en charge localement.
Alors, Madame Diallo, vous qui êtes du CENIEX, la cellule communication du ministère de la Santé, vous avez déjà connaissance des conséquences sur la santé de la femme. Qu'est-ce que le CENIEX a fait à ce niveau par rapport à la sensibilisation?
Alors, par rapport à la sensibilisation, généralement, pour accompagner les programmes, le CENIEX fait des plans de communication. Des plans...
Oui, allez-y, allez-y.
Le CENIEX fait des plans de communication dans lesquels nous envisageons la participation et l'implication des différents acteurs et à différents niveaux. Parce que c'est un sujet vraiment qui mérite d'être discuté au niveau communautaire. Parce que toute question qui s'intéresse à l'aspect culturel, à l'aspect social, ce n'est pas les techniciens de la santé seuls qui peuvent les gérer. Donc ce plan de communication envisage l'implication et la participation des différents acteurs aux différents niveaux, que ce soit les religieux, que ce soit les associations féminines, que ce soit les groupements des jeunes. Chacun à son niveau a un rôle d'information et de sensibilisation à jouer. Et de plus en plus, par rapport à des questions aussi intimes que celles-ci, nous utilisons surtout la paire éducation, que les jeunes filles entre elles parlent du sujet et se permettent de donner des informations, de se renseigner et d'encourager à aller vers cet abandon-là. Et même plus loin, ces jeunes filles sont aussi utilisées comme des relais pour informer les grand-mères par rapport aux conséquences de l'excision. Parce que le constat est que beaucoup de grand-mères ou beaucoup de mamans ne font pas forcément le lien entre l'excision et les accouchements difficiles qu'elles subissent après.
Les risques sanitaires sur la naissance.
Sur la naissance qu'elles subissent après. Donc, la nouvelle génération, si je peux prêter ce terme-là, la nouvelle génération a une certaine connaissance. Ils ont l'information culturelle au niveau de la famille, ils ont l'information sur les médias sociaux, ils ont l'information à l'école, et ils ont l'information entre eux. Donc, ils ont une certaine capacité de discernement qui font qu'ils comprennent les choses et ils peuvent aussi relayer l'information auprès des parents. Donc, c'est un plan de communication qui envisage ces différentes stratégies pour qu'ensemble, on puisse se donner la main en vue de gérer la question de l'excision.
Alors, Madame Aminata Traoré du CADEF, Comité d'action pour les droits de la femme et de l'enfant, j'imagine que dans votre lutte, vous mettez l'accent sur les conséquences de la pratique.
Sur les conséquences de la pratique. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est par rapport à la communication. Parce qu'il y a une certaine différence. Parce que nous, les communications, c'est ponctuel et périodique. Alors que normalement, dans une situation comme ça, ça devrait être continuel. C'est-à-dire que tout le temps, il faut informer. On doit continuer à informer, à éduquer même à la limite les gens à cette pratique-là. Parce que sinon, on oublie. Parce que quand on commence, on va fêter les 12 ans tout à l'heure, on va en parler pendant une ou deux semaines. Ensuite, on va le faire jusqu'à la prochaine, au prochain anniversaire. C'est ça le problème, justement, ici, en Afrique en particulier, en général, au Mali en particulier. L'information n'est pas assez disparue. Il faut rester là-dessus. Il faut rester là-dessus tout le temps. C'est ce qui nous manque. Et si on arrive à atteindre ce niveau de communication et d'information, c'est sûr que les gens vont changer de comportement. Ça va finir par rentrer dans les têtes et dans les mœurs, finalement.
Alors, qu'est-ce que vous faites à votre niveau, vous qui êtes du comité d'action pour les droits de la femme et de l'enfant?
On le dit, les femmes, parce que nous avions un centre de rencontres intergénérationnelles. Donc, on rencontre beaucoup de personnes, et surtout des femmes. On en discute. Et généralement, elles viennent des milieux où cette pratique-là est vraiment ancrée dans les familles. Donc, on leur demande tout simplement d'apprécier en leur posant des cas, de parlant des cas concrets et des faits.
Est-ce que c'est facile d'aborder cette... Madame Aminata Traoré, je vous coupe, parce que est-ce qu'on se demande souvent si c'est facile d'aborder vu que c'est un sujet tabou? Comment vous vous y prenez sur le terrain, une fois sur le terrain?
Les hommes font partie du débat, mais quand c'est entre nous, femmes, ça passe généralement très facilement. Et ça dépend de la manière dont on aborde la question.
D'accord.
Parce que moi, je dis chez nous, c'est culturel, on ne pratique pas.
D'accord.
Donc,
alors,
je suis peut-être un peu mieux placé pour aborder la question avec ces femmes-là et les amener à comprendre.
D'accord.
Mais ce qui est sûr, il faut en parler et très souvent en parler.
Alors, Monsieur Bagayogo, oui, Madame, merci. On va revenir à vous. Alors, Monsieur Bagayogo, vous êtes du programme national de lutte contre l'excision. Madame l'a dit, les stratégies de communication sont jugées inefficaces. Est-ce que vous songez à mettre en place d'autres stratégies pour que la population soit cible, soit atteinte?
Merci. Je pense que les stratégies mises en place, dire qu'elles sont inefficaces, je pense qu'il faut relativiser et connaissant le sujet qui touche l'intimité de la personne. On ne peut pas se permettre de l'aborder et n'importe comment. Donc c'est pourquoi il faut du tact dans ce que nous faisons. Et nous avons mis l'accent sur la communication. Madame l'a dit, je la remercie, parce que c'est notre préoccupation. Il ne faudrait pas se limiter seulement à la journée et il faudrait continuer à occuper l'espace médiatique toute l'année pour que les gens puissent bénéficier toujours de la bonne information. Parce que c'est ça aussi le goulot d'étranglement. On peut écouter, mais écouter quoi? C'est ça, il faut qu'il y ait un professionnel à la matière qui puisse tenir le langage adéquat et qui puisse être accepté, en tout cas par les différentes sensibilités. Sinon, aujourd'hui, le sujet est désacralisé. Le sujet est démystifié. Aujourd'hui, dans des coins de brousse, nous nous rendons, on discute avec les femmes et avec les hommes en même temps. Ce débat se fait. Et quand vous pensez à quelques années seulement, ce n'était pas imaginable. Ce n'était pas imaginable.
Mais dire que les mentalités ont changé.
Il y a une avancée sur le plan. C'est pourquoi il y a des communautés aujourd'hui qui acceptent célébrer en signant une convention locale contre la pratique de l'excision. Il y a d'autres même qui ne veulent même pas s'en arrêter là. Ces communautés-là veulent aller vers d'autres communautés qui n'ont pas encore abandonné pour leur dire tout le bien que cela peut porter à ces différentes communautés. Mmh. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 villages qui ont déclaré officiellement l'abandon de la pratique de l'excision. Sans compter les villages qui n'ont pas voulu manifester ça publiquement.
Mmh.
Parce qu'ils disent que la parole qu'ils ont tenue, alors c'est sacré. Donc, ils n'ont pas besoin d'appeler la télévision ou qui que ce soit. En tout cas, ce qui est dit est dit. C'est pourquoi, dans ces communautés-là, des comités de vigilance sont mis en place au sein de ces différentes communautés pour que, au moins, on puisse voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que les gens sont en train de suivre la convention? Est-ce que la déclaration qui a été faite, les gens sont en train de respecter? Alors, si cela n'est pas respecté, qu'est-ce qui est prévu comme sanction? La sanction, elle est communautaire. C'est la communauté qui décide. C'est pourquoi la communauté veille. Parce que c'est une parole, c'est un engagement qui doit être sacré. Les responsables, les autorités villageoises sont impliquées, les autorités communales sont impliquées, et même l'administration est invitée pour témoigner, en tout cas, de cet engagement. Donc, il y a une avancée. Je voudrais revenir un tout petit peu, si vous le permettez, par rapport à l'avancée. Et quand vous prenez le DSM-5, la dernière enquête, qui vous prenez les tranches d'âge, 0-4 ans, 5-9 ans, 10-14 ans, si vous prenez 10-14 ans, qui est la dernière tranche des enfants à ce niveau, il y a 82% de ces filles-là, âgées de 10 à 14 ans, sont excisées. Maintenant, si vous venez vers le bas, alors 5-9 ans, alors c'est 74,7% qui sont excisées de cette tranche d'âge. Vous voyez que ça baisse. Et si vous arrivez aux 0-4 ans, il y a 53% de ces filles-là. Ça montre l'effort, les résultats qui sont en train d'être atteints. Parce que c'est une statistique qui est parlante ici.
Mais Madame Diallo, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir votre plan de communication par rapport à la périodicité? Parce que, comme Madame Traoré le disait tout à l'heure, mm-hmm. c'est vrai que c'est périodique, mais est-ce qu'il ne faudrait pas accélérer le rythme?
Bon, effectivement, on a ce souci d'aller de l'avant et d'améliorer toujours pour qu'on puisse avoir des statistiques beaucoup plus améliorées que ce que Lille vient de présenter. Mais malheureusement, les moyens de l'État étant limités, on est obligé de nous baser sur les appuis des partenaires et qui ne répondent pas forcément souvent à hauteur de souhait et au moment voulu. Sinon, effectivement, c'est un souci réel. On veut renforcer.
L'appel est donc lancé aux partenaires.
Exactement.
Sur ce, on va observer quelques secondes de pause.
Une réaction.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Le grand dialogue sur l'excision, nous faisons le point au Mali tout en évoquant les conséquences et les modes de lutte avec nos invités qui sont Youssouf Bagayogo, chef plaidoyer mobilisation sociale au programme national de lutte contre l'excision, Madame Diallo Assitan Diakité du CNIEX et Madame Aminata Traoré du CADEF, comité d'action pour les droits de l'enfant, ainsi que Dr Modibo Soumaré qui est gynécologue obstétricien. Alors docteur, vous êtes avec nous? Alors, nous allons continuer avec les risques sanitaires. Ce que je voudrais savoir, surtout avant d'entamer le troisième volet, on va faire un petit saut dans le deuxième volet. Est-ce que les risques sont liés à la pratique de l'excision selon l'âge? C'est-à-dire si c'est à bas âge ou à un âge avancé, les risques aussi évoluent selon ça?
Ok, merci. Cette question est pertinente et intéressante. Les risques sont liés à le sexe. Qu'on fasse l'excision à la petite fille qui vient de naître, ou que la fille soit excisée à 1 an, 2 ans, 3 ans, les risques sont les mêmes. Mm-hmm. Parce qu'on peut mourir d'hémorragie, on peut mourir d'infection, on peut mourir d'autres choses. Donc les risques, quel que soit l'âge, les risques sont là et ils sont inhérents. Et les risques augmentent également plus l'excision est réalisée à bas âge. Parce que les organes génitaux externes n'étant pas bien développés, on peut pratiquement tout arracher, on peut tout enlever. Et là, maintenant, c'est la vessie, c'est le rectum, c'est les lèvres, tout. On peut tout enlever. Donc, ne soyons pas de stigmatiser les risques par rapport à l'âge. C'est une pratique néfaste d'être abandonné. Quand on va passer une fois que, en l'entendant du message, non plus, on le fait à un âge avancé, les risques sont moindres. C'est comme si, quelque part, on encourageait à continuer la pratique. Mm-hmm. L'âge avancé un peu. Non, si je le fais à 15 ans, 16 ans, c'est moins risqué. Si je le fais à 20 ans, c'est moins risqué. Non. De la naissance jusqu'à la femme en âge d'activité, en activité génitale, les risques sont les mêmes. Parce qu'on peut mourir de choc.
D'accord,
des chocs neurologiques, on peut mourir d'infection, on peut mourir d'hémorragie qui ne s'arrête pas. Hémorragie incoercible. Mm-hmm. Mais moi, je vais rebondir sur un aspect, mm-hmm. c'est le volet communication. Ouais. Certes, beaucoup de choses ont été faites par rapport au ministère de la Santé, par rapport aux partenaires techniques et financiers, mais je reconnais qu'il y a une insuffisance dans l'information, l'éducation et la sensibilisation. C'est une insuffisance parce qu'il faut profiter d'une semaine pour en parler et les 11 mois restants de l'année, on n'en parle plus. Donc cette activité doit continuer et soutenir toute l'année. Deuxième chose que je voulais apporter, il faut une volonté politique très forte. Il faut une volonté politique. La dernière maladie qu'on vient de connaître, la maladie à virus Ebola, on a vu comment le gouvernement s'est mobilisé. Mm-hmm. Le président de la République, le Premier ministre, le ministère de la Santé, l'Assemblée nationale, tout le monde a été mobilisé. On a pu booster Ebola. Mm-hmm. Et maintenant, le Mali est Ebola free. Mm-hmm. Je pense que si on fait les mêmes efforts par rapport à l'excision, je ne dis pas qu'on peut ramener les taux autour de 30-40%, mais les taux quand même vont baisser de façon significative.
D'accord.
Également, autre chose que je voulais ajouter, il faut un leadership fort et un plaidoyer. Un plaidoyer à tous les niveaux. Au niveau politique, au niveau des institutions, au niveau de la société civile, de l'État communautaire et de l'UE. Quand on fait des plaidoyers une fois par an, on le fait, on réunit la société civile, les États communautaires, on n'en parle pas une fois par an, ils vont oublier. Dans la salle, ils sont sensibilisés. Dans la salle, ils adhèrent, mais ce n'est pas soutenu. Il faut aller même dans les domiciles, il faut aller dans les mosquées, dans les églises, dans les écoles. Bon, on réunit les gens à la mairie, on en parle, ils sont sensibilisés, ils ont peur. Mais si l'effort n'est pas soutenu, si l'effort n'est pas continuel, ils baissent un peu les bras et on a tendance encore à revenir à la pratique. Donc je pense que ce n'est pas la seule semaine qui va souffrir pour fléchir la courbe d'excision. Ce n'est pas le seul moment qui va souffrir, c'est toute l'année et de façon pérenne et soutenue.
D'accord.
Donc à travers le ministère de la Santé, ses partenaires.
Oui.
Et aujourd'hui, l'excision maintenant occupe un domaine transversal de la santé. C'est un domaine transversal.
Oui.
Ce n'est plus le seul problème du ministère de la Santé. C'est le ministère de la famille, de la promotion de la famille, de l'affaire de la famille, le développement social, le volet communication, c'est le CNIEX. Donc c'est l'Assemblée, c'est tout le monde qui doit en parler. Et on doit se donner la main, serrer les coudes, pour qu'on puisse booster l'excision. Sinon, comme ça, je pense que on va beaucoup mettre beaucoup d'argent, on va beaucoup en parler, et les chiffres vont tout de même baisser.
Merci, docteur. Nous sommes déjà dans le troisième volet. Docteur nous parlait déjà de solutions. C'est ça, le troisième volet. Alors, on se demande comment lutter efficacement contre la pratique de l'excision. Que faire aujourd'hui pour que les Maliens cessent d'exciser? Monsieur Bagayogo.
Oui, merci. Docteur vient de faire une proposition à la suite des prédécesseurs. Alors, je pense que c'est important de mettre l'accent sur la communication. La communication dans son sens large.
dans son sens large. Je pense que c'est très important parce qu'un phénomène comme l'excision, alors, il s'est ancré dans des traditions, c'est ancré dans des pratiques. Alors, il faut beaucoup plus de patience, beaucoup plus de communication, surtout de proximité. Surtout de proximité. C'est pourquoi nous avons initié avec l'UNICEF il y a quelques années, et d'autres partenaires l'ont suivi, alors une campagne multimédia. Alors, il s'agit de faire passer, alors, par exemple, le théâtre forum dans une localité pendant quelques fois. Ensuite, le cinéma numérique ambulant pendant quelques fois dans le même village. Et ensuite, il y a une ONG qui vient encore pour faire la communication de proximité. Les visites à domicile, les counseling, les causeries de débats éducatifs. Donc, pour mieux, en tout cas, partager les informations avec la communauté. Et c'est la suite de tout ça que la communauté, finalement, se décide d'abandonner la pratique de l'excision. Moi, je pense qu'il l'a dit, et je suis entièrement d'accord, qu'il faut amplifier ces actions de communication. Occuper l'espace médiatique, en fait. Parce que le politique aussi a besoin de voir ce qui se passe ailleurs. Alors, pour pouvoir prendre des décisions. Donc, cela permet, en tout cas, à la société civile, identifier comme groupe de pression pour, en tout cas, obliger les autorités compétentes à la matière à prendre des décisions qu'il faut. Parce qu'on ne peut pas vouloir quelque chose de son contraire. On veut faire la promotion de la santé reproductive. Et nous savons bel et bien que l'excision pose problème à ce niveau. L'excision est constitue un obstacle par rapport à cette santé de la reproduction. Alors, je pense qu'il y a une politique, normes et procédures en santé de la reproduction. Et il y a la politique nationale de lutte contre l'excision. Il y a la politique nationale genre. Il y a la politique nationale de protection et de promotion des droits de l'enfant. Donc, il y a tout un ensemble de documents, de politiques et même de plans d'action qui existent. Mais il faut une volonté politique pour soutenir ces documents-là.
Alors, Madame Diallo, en plus de la volonté politique, qu'est-ce qu'il faut comme solution aujourd'hui pour lutter efficacement contre l'excision au Mali?
Bon, comme solution déjà, le thème de cette année le dit, c'est l'implication des jeunes dans la lutte contre l'abandon de l'excision. Parce que on se dit, c'est vrai, c'est quelque chose qui est traditionnel, qui est ancré il y a très longtemps, mais on a réfléchi en nous disant aussi, après la sensibilisation des grandes personnes, des parents, et aussi, après l'information de la jeune génération à l'école, il faudrait aller vers cette génération-là pour leur donner la parole, leur donner la possibilité d'échanger entre eux, leur donner la possibilité d'être motivés pour aller vers ce changement-là. Parce que quand la nouvelle génération va comprendre que l'excision a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages, parce que malheureusement, on n'est même pas en mesure de démontrer un avantage par rapport à cette pratique-là. Un seul avantage, on ne peut pas le démontrer. Mais on peut démontrer des dizaines de complications, des dizaines de conséquences. Et pour la nouvelle génération qui comprend beaucoup de choses, nous osons espérer que le changement sera obtenu à partir de celle-ci. Donc c'est pourquoi, de plus en plus, la nouvelle génération, qui sont les jeunes garçons et les jeunes filles surtout, sont de beaucoup plus en plus impliqués dans les activités de lutte contre l'excision. Ce qui en témoigne le thème de cette année par rapport à la journée de cette année.
D'accord. Alors, Madame Aminata Traoré du CADEF, quelle solution le comité d'action pour les droits de la femme et de l'enfant préconise pour lutter contre l'excision?
C'est la question de la communication. La communication, l'information. Comme on l'a dit, la nouvelle génération, il faut la préparer. Il faut vraiment la préparer. On a l'école, le ministère de l'Éducation peut donner un coup de main en incluant dans le programme du secondaire pour permettant aux jeunes filles et aux jeunes garçons de comprendre la pratique, ces inconvénients, peut-être qu'engranger, ils ont la conscience de ne pas le faire. Et l'ancienne génération, on va toujours se battre avec l'information pour qu'ils arrivent à accepter quand même d'arrêter la pratique de l'excision.
D'accord. Alors, M. Bagayogo, vous l'avez dit, 20 ans de lutte et vous avez même noté des avancées en la matière. Mais il y a quelque chose qui bloque au Mali. Ça, c'est la question de loi. Alors que dans certains pays de la sous-région, comme le Burkina et le Sénégal, il y a une loi qui interdit la pratique de l'excision. Pourquoi pas une loi au Mali?
En fait, c'est vrai, le Mali est entouré de pays qui ont déjà pris la loi contre cette pratique. C'est pourquoi nous observons que c'est... jeunes filles quittent ces villes-là, ces pays-là, et qui viennent au Mali, et parce qu'il n'y a pas de loi, et excisées. En tout cas, les filles sont excisées ici, les filles qui sont de la sous-région. Et nous en En tout cas, j'ai conscience qu'il y a problème à ce niveau. Mais les gens sont en train de percevoir la loi comme une répression comme ça. Alors que la loi n'est pas que répression seulement. La loi, si elle existe, elle est dissuasive. Si nous savons que si vous passez à tel acte, voilà tel article qui pose problème, voilà tel article qui réprime, je pense que c'est très important la loi. Mais cette question, tant qu'on parle de loi seulement, on pense à la répression. On pense que ce n'est pas une loi appropriée. Alors qu'aujourd'hui, les communautés qui sont en train d'abandonner, les communautés sont en train de réclamer leur protection parce qu'elles ont compris. C'est pourquoi, comme intermédiaire, solution intermédiaire, il y a des conventions locales qui sont signées par ces communautés. Et ces conventions sont applicables aux signataires de la convention. Mais cela ne suffit pas. Nous voudrions partager toutes ces informations, tous ces résultats avec les élus, par exemple. Alors, il y a un réseau des parlementaires maliens de lutte contre les violences faites aux femmes. Ce réseau, maintenant, est engagé, en tout cas, à bras le corps cette question de loi pour mieux comprendre d'abord le phénomène, mieux élaborer la stratégie et aller vers les autres élus pour pouvoir disposer d'une loi un jour, en tout cas, qu'on sait pratique. Parce qu'on peut obtenir la loi de deux façons, soit par projet de loi, soit par proposition de loi. Alors, des deux côtés, alors nous devons nous mobiliser pour que nous puissions disposer de la... Parce qu'il s'agit de la fille malienne, il s'agit de la femme malienne, il s'agit de la famille malienne. Ce n'est pas ma famille, ce n'est pas votre famille, c'est la famille de nous tous. Donc, il s'agit de protéger les enfants et les femmes. Donc, ça, c'est très important.
Monsieur Bagayogo, on va faire réagir Madame Diallo. Cette question de loi est-elle une solution pour vous, pour lutter contre l'excision?
Ça peut être une solution complémentaire. Dans la mesure où si, par exemple, dans notre société, puisqu'on sait qu'on est en grande famille, où un membre, je donne un exemple concret, où un membre de la famille a la pression dans la famille, en provenance soit des grand-mères ou des grandes-tantes qui disent qu'il faut que l'enfant soit excisé, alors que la maman de l'enfant ne veut pas que son enfant soit excisé, elle a la possibilité de recourir aux autorités en ce moment, si elle sait qu'il y a une loi qui est là pour la protéger dans son action, dans cette intervention-là. Elle aura le courage et l'audace d'aller vers les autorités pour déclarer que je ne veux pas que mon enfant soit excisé, mais les membres de la famille m'imposent cela. Donc, c'est un exemple concret que je donne pour dire que la loi peut être une solution complémentaire par rapport au changement de comportement.
Alors, docteur Soumaré, la loi est-elle un frein à ce phénomène?
Non, je rejoins Mme Diallo en disant qu'il faut des lois, même si c'est des lois dissuasives. Au Burkina, aujourd'hui, ils sont très avancés par rapport aux lois. Le Burkina, le Sénégal, au Burkina, même le voisin peut dénoncer la voisine si elle va exciter sa fille. Et au Burkina, des gens ont été même en prison. Mais après, ils ont vu des lois vraiment trop restrictives, des lois trop sévères. Après, ils ont revu. Mais je pense qu'en mettant des lois, on met un garde-fou. La personne va après un peu faire attention. Si je fais ça, est-ce que je ne sais pas amener à la police, est-ce que je ne sais pas amener à la gendarmerie, est-ce que je ne sais pas devant les tribunaux.
D'accord.
Mais la loi est obligatoire.
Merci, docteur Soumaris.
Allô. La loi ministérielle ou un décret, quand on dit que c'est le président même qui a signé, je pense que cette loi doit avoir une force.
Merci, docteur Soumaré. Malheureusement, nous sommes au terme de cette émission. J'espère que Mme Aminata Traoré du CADEF ne va pas m'en vouloir. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce thème, l'excision, le point au Mali, grâce à nos invités, Youssouf Bagayogo, chef plaidoyer mobilisation sociale au PNLE, docteur Soumaré, gynécologue obstétricien, Mme Diallo Assitan Diakité du CENIEX et Mme Traoré, Aminata Traoré du CADEF. Nous avons pu faire le point de la situation de la pratique de l'excision au Mali. Ils nous ont édifiés sur les conséquences et la manière de lutter efficacement contre cette pratique. Cette émission vous a été présentée par Sira Bachili, réalisée par Ousmane Diadje Touré et la mise en onde était assurée par Salim Djouara. Merci de nous avoir suivis.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.